France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véret.
Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette nouvelle série, nous allons partir à la découverte du Mexique, où tant de cultures se sont croisées, venues souvent de très loin, dans le temps et dans l'espace. Notre pérégrination débute vers 1915, alors que le pays, à l'ombre de son grand voisin, les États-Unis, est en pleine révolution. Nous serons en compagnie de musique, de littérature et, comme toujours, d'interlocuteurs mexicains qui sauront décrypter leur pays mieux que quiconque, à la lumière notamment de l'actualité contemporaine. Le premier chapitre nous emmène sur le haut plateau d'Anahuac, au milieu du pays, là où les Aztèques ont établi un jour la capitale de leur empire. Notre périple commence, le jour se lève, dit la chanson, et le chant des oiseaux éveille la nature. Bienvenue au Mexique. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Voyageur, tu es arrivé dans la région la plus transparente de l'air. Une phrase que l'écrivain et diplomate mexicain Alfonso Reyes place en exergue de son magnifique poème en prose « Vision de l'Anahuac ». Une phrase empruntée au naturaliste et explorateur allemand Alexander von Humboldt qui exprime son émerveillement en découvrant en 1804 la région de l'Anahuac, qu'on appelle communément la vallée de Mexico. Ici, écrit Alfonso Reyes, la nature n'est pas comme au sud ou sur les côtes, abondante en fruits juteux. Le pays d'Anahuac n'offre guère de terres fertiles aux abords des lacs que l'homme est parvenu à dessécher au long des siècles. Dans ce paysage, sous la fulgurance du ciel et dans sa fraîcheur, des hommes inconnus ont un jour promené leur regard méditatif et spirituel. Des siècles plus tard, dans un moment d'émerveillement, ce sont les hommes du conquistador Hernán Cortés qui ont découvert, au-delà des volcans enneigés, cette terre de sonorité, de fulgurance, ce vaste cirque entouré de montagnes. Jusqu'à eux parvenait la plainte des flûtes et de la chirimia, le hautbois aztèque, ainsi que l'écho multiplié des battements des tambours sauvages et des appels des conques marines. Thank you.
ci senti niol aia nunque ponti mo che ta poian aia aia che te poia ispantoma santa maria aia.
C'était le Tepona Squicatl, la procession des tambours, extrait d'un codex de chants mexicains datant de la seconde moitié du XVIe siècle, chanté en langue aztèque, le Nahuatl, par l'ensemble Vocal Arts de San Antonio, Texas. Le Nahuatl, une langue qui nous ramène au passé préhispanique du Mexique que nous décrit Alfonso Reyes. Dans la capitale aztèque de Tenochtitlan, sur les ruines de laquelle a été fondée la ville de Mexico, il y a deux lagunes. Elles occupent toute la vallée. L'une est salée, l'autre douce. Leurs eaux se mêlent avec un rythme de marée dans le détroit formé par les sierras qui les entourent. Au milieu de la lagune salée se trouve la grande cité, comme une immense fleur de pierre qui communique avec la terre ferme par quatre portes et trois chaussées. Des ponts franchissent les canaux sous lesquels glissent des pirogues pleines de fruits et de fleurs. Dans la vie du peuple, la nature joue un rôle important et inspire tous les arts, notamment la poésie qui se transmet de génération en génération, comme celle du jeune empereur Nezahualcoyotl du XVIe siècle, ou encore ce poème funèbre écrit en Nahuatl qui pleure la mort un siècle plus tard du dernier empereur, Cuauhtémoc. Le soleil brille à l'aube quand tes sujets en pleurs parcourent les chemins pour venir ici te vénérer.
Thank you.
La soprano espagnole Victoria de Los Angeles s'est passionnée à la fin de sa carrière pour les poèmes en langue aztèque nahuatl que le compositeur mexicain Salvador Moreno a mis en musique vers 1950. Elle était ici accompagnée par Jeffrey Parsons, une interprétation saisissante et d'une intensité impressionnante. Alfonso Reyes évoque aussi ses poèmes, notamment, et je cite, « ceux qui ont pour sujet le cycle du serpent à plumes, le Quetzalcoatl, le cycle le plus important de cette confusion mythologique, symbole du civilisateur et du prophète et qui est en plus un mythe solaire. Ces poèmes découvrent soudain à nos yeux la maison des nobles aztèques, la maison des rayons de lumière, des couleuvres à plumes et des turquoises. C'est de cette maison qui brille comme une mosaïque bigarrée que sont partis à jamais ces nobles aztèques. Ils s'en sont allés sur les eaux en pleurant, comme s'en est allé le Quetzal, l'oiseau arc-en-ciel qui annonce le retour d'un nouveau roi Arthur, d'un nouveau conquérant. » Sois béni, Tonantzin, toi la mère terre, d'où ont surgi les hommes.
Thank you.
Une prière à Tonantzin, la mère éternelle de la terre, que les Aztèques ont associée après la conquête à la Vierge de Guadalupe. Chantée ici par Plácido Domingo dans le film mexicain La Otra Conquista, l'autre conquête de Salvador Carrasco, et dont la musique est du compositeur Samuel Zeman. L'Académie de Saint Martin in the Fields était dirigée par David Snell. Ce film, sorti en l'an 2000, raconte l'histoire du fils de Moctezuma, rescapé du massacre perpétré par les Espagnols au grand temple de Tenochtitlan. Quelle que soit la doctrine historique que nous professions, poursuit Alfonso Reyes dans sa vision d'Anahuac, ce qui nous unit aujourd'hui à la race d'hier, c'est non seulement le sang, mais aussi notre lutte pour dominer la nature et l'émotion quotidienne que nous ressentons face à elle. Ce récit de 1915 est un texte fondateur en ces années où le Mexique revendique plus que jamais son passé préhispanique. Sans la fulgurance de l'émotion historique, insiste Alfonso Reyes, nos montagnes seraient comme un théâtre sans lumière. Quand la lune se réverbère dans la neige des volcans, le poète voit se détacher sur le ciel le spectre de Doña Marina, la maîtresse d'Hernán Cortés, poursuivie par l'archer des étoiles, l'empereur aztèque Moctezuma Ier. Ne refusons pas son évocation, ne dédaignons jamais nos légendes.
Thank you.
La Estrellita, la petite étoile, l'une des mélodies mexicaines les plus populaires, composée en 1912, 2 ans après le début de la Révolution mexicaine, par Manuel Ponce. Elle était interprétée ici par l'orchestre du Festival de Mexico, dirigé par Enrique Batis. Quand Alfonso Reyes écrit sa vision d'Anahuac, le pays est en guerre depuis 5 ans déjà. Quelques mois auparavant, il venait de se libérer de la dictature du général Huerta, grâce notamment à la résistance des 2 chefs de guerre, Pancho Villa et son armée de mercenaires au nord, et Emiliano Zapata au sud, qui avaient entraîné dans son armée libératrice les paysans en lutte pour récupérer leurs terres. Emiliano Zapata, figure de légende en sa noblesse, sa beauté, et dont l'idéalisme généreux lui vaudra de mourir assassiné. Le Mexique, en 2019, a célébré ce grand homme à travers tout le pays. La révolution mexicaine est devenue vite populaire dans le monde entier, en particulier grâce aux chansons qui l'ont accompagnée. Comme l'écrit le journaliste Carlos Monsiváis, les sans-noms, les sans-terres se rebellent, et leurs chansons populaires au grand jour, des milliers de corridos, de chansons de gestes parcourent le pays. Les corridos, issus des anciens romances espagnols, accompagnent les combattants et diffusent les nouvelles à travers le pays. C'est alors qu'apparaissent des personnages emblématiques qui deviennent des archétypes, en particulier, pour la première fois dans le pays, la figure héroïque de la femme soldat, comme la belle Adelita, une sorte de madelon mexicaine que le sergent adorait et que tout le régiment respectait.
De una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, y a pesar de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, que si Adelita por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra y si por tierra en un tren militar, que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. En que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Al oírla el sargento, temeroso de perder para siempre a su adorada, ocultando su emoción bajo el embozo, a su amada le cantó de esta manera: y se oía que decía aquel que tanto la quería, y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vengas a llorar. Que si Adelita quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel.
Quand le général Huerta a fait assassiner le président Madero pour arriver au pouvoir, les chansons ont vite ridiculisé ce fantoche et ce traître. Même les États-Unis ne l'ont pas reconnu. C'était en effet un personnage peu recommandable. On le disait alcoolique, fumeur de marijuana, en gros, une cucaracha, un cafard, un cancrelat, comme dans le célèbre corrido révolutionnaire où il est en manque de marijuana et ne peut plus marcher. Un succès mondial que cette cucaracha s'est même devenu à notre époque un thème pour klaxon de voiture. Quand on songe que ce chant a sans doute des origines espagnoles, puisqu'on a retrouvé des similitudes troublantes avec un romance de la conquête de Grenade au XVe siècle.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillévéré.
Pobrecito de Madero, casi todos le han fallado. Huerta viejo bandolero, es un buey para el arado. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. El que persevera alcanza, dice un dicho verdadero. Yo lo que quiero es venganza por la muerte de Madero. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Todos se pelean la silla que les deja mucha plata. En el norte viva Villa, en el sur viva Zapata. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. En la mina todo brilla, así son sus minerales. Ya murió Francisco Villa, general de generales. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar, marihuana que fumar, marihuana que fumar.
Depuis plusieurs années, Manuel Ponce s'intéresse à la musique populaire mexicaine. Il a fondé une école de piano dans la capitale et en 1912, ses élèves offrent le premier récital au Mexique consacré exclusivement à l'œuvre de Claude Debussy. Le concert débute par le Clair de Lune interprété par Carlos Chavez, un de ses plus jeunes disciples. 3 ans plus tard, le petit Carlos est devenu un compositeur autodidacte et très inspiré par Ponce, qui l'a initié à la musique populaire mexicaine, il arrange 2 chants révolutionnaires tout à fait dans le style de son maître, la Adelita et la Cucaracha. Carlos Chavez avait 16 ans.
Thank you.
Max Lifschitz au piano dans ces deux chants révolutionnaires mexicains arrangés par Carlos Chavez. En 1916, les États-Unis vont connaître la première et seule intervention d'une armée étrangère sur leur territoire. En effet, le 9 mars, Pancho Villa et sa division du Nord passent la frontière au petit matin et arrivent au Nouveau-Mexique dans la ville de Columbus, qu'ils mettent à feu et à sang. Les États-Unis organisent une expédition punitive quelques jours après et tentent de capturer Villa, mais en vain. C'est la troisième intervention Yankee et tout le monde redoute un nouveau bain de sang comme celui qui a eu lieu de 1846 à 1848 suite à l'annexion par les États-Unis de la région mexicaine du Texas. Ce conflit est resté dans toutes les mémoires. L'armée Yankee avait recruté des renforts en majorité des Irlandais récemment immigrés. Maltraités par leurs supérieurs, à cause notamment de leur catholicisme, et horrifiés, une fois de l'autre côté du Rio Grande, par les exactions de l'armée Yankee, les Irlandais prennent bientôt fait et cause pour les Mexicains et se joignent à eux. À leur tête, John Reilly, qui fonde son bataillon de Saint-Patrick, Los San Patricios, comme on les appelle en espagnol, les San Patricios, qui sont à leur entrée dans la légende mexicaine. Un film de 1999 a raconté leur combat. Et le chanteur américain David Ravix célèbre aujourd'hui encore leur épopée. Je m'appelle John Reilly et j'ai déserté pour rejoindre les Mexicains.
My name is John Reilly. I'll have your ear only a while. I left my dear home in Ireland. It was death, starvation, or exile. When I got to America, it was my duty to go. Enter the army and slog across Texas to join in the war against Mexico. And it was there in the pueblos and hillsides that I saw the mistake I had made. Part of a conquering army with the morals of a bayonet blade. And there amidst all these poor dying Catholics, screaming children, the burning stench of it all, myself and 200 Irishmen decided to rise to the call. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We marched neath the green flag of St. Patrick, emblazoned with Erin Go Brah, bright with the harp and the shamrock, and Libertad para la República. Just 50 years after Wolf Tone, 5,000 miles away, the Yanks called us a legion of strangers, and they can talk as they may. But from Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We fought them in Matamoros while their volunteers were reaping the nuns. In Monterrey and Cerro Gordo, we fought on as Ireland's sons. We were the red-headed fighters for freedom amidst these brown-skinned women and men. Side by side we fought against tyranny, and I dare say we'd do it again. From Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side.
Le bataillon des San Patricios comportait sans doute plus de 200 combattants, en grande majorité irlandais, mais composé aussi d'esclaves noirs qui avaient réussi à fuir le sud des États-Unis, de Canadiens et de quelques soldats d'origine européenne, notamment des Français, des Suisses et des Espagnols, qui n'avaient pas encore, pour la plupart, la citoyenneté américaine. La guerre a été épouvantable. Les San Patricios ont été souvent en première ligne. Quand les Américains ont envahi la capitale, Mexico, ils ont capturé la plupart d'entre eux. Ils ont été torturés et pendus en septembre 1847. Au Mexique comme en Irlande, on fête deux fois Los San Patricios, le 12 septembre en mémoire de leurs martyrs et le jour de la Saint Patrick, le 17 mars. Aujourd'hui, dans le quartier de Coyoacán de la capitale, là où ils ont été emprisonnés, un monument à John Riley et une plaque lapidaire rappellent leurs martyrs. Depuis, l'Irlande et le Mexique ont gardé des liens très forts et en 2010, ils ont décidé de célébrer les San Patricios en produisant un magnifique album enregistré par le groupe de Dublin The Chieftains, l'américain Ray Cooder et plusieurs grands artistes mexicains, notamment Chavela Vargas et Lila Downs. Lila Downs qui interprète ici un ancien son mexicain qui se mêle à la musique irlandaise, un son qui chante la iguane, cette iguane mexicaine à la fois mystérieuse et mythique qu'on aime par-dessus tout.
¿Para dónde vas? Voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad. Que en ese pueblo no hay novedad. Pero si lo viera casualidad, será tan fea. Que van a tan fea. Que se sube un palo. Y luego se apea. Pone su huevito. Loca caraquea. Se mete al oído. Para que no la miren. Se mira en el espejo. Porque está muy fea. Haga usted lo mismo. Se cayó de arriba de una escalera. Oh, yeah. Oh. ¿Para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad. Que en ese pueblo no hay novedad. Que si lo viera casualidad, si será tan fea. Que van a estar fea. Que se sube un palo. Y la voz es fea. Que pone su huevito. Loca caraquea. Que se mete al oído. Para que no la vea. Saca su patita. Como que patea. Saca su nariz. Como naricea. Saca su sobrito, como que ojea, saca la colita, como paletea, saca su suñita, como que puñea.
En 1916, Le fait que Pancho Villa ait envahi à son tour le territoire américain, même si c'était très brièvement, a considérablement redoré son blason et sa légende. Depuis quelques années, de nombreux compositeurs tentent de renouer avec leurs racines, se revendiquent mexicains avant tout, et ne cherchent plus à se perfectionner automatiquement en Europe comme c'était l'usage. Manuel Ponce a sans doute été le premier à rechercher dans ses œuvres le coloris, l'expression, les thèmes, les sentiments et les ambiances du peuple mexicain. La musique populaire le passionne, et il cite même parfois certaines mélodies, comme dans sa rhapsodie mexicaine « Las Mañanitas », les petits matins qu'on chante encore aujourd'hui en famille pour les anniversaires. Avec bien sûr ce qu'il faut de variations virtuoses et de modulations harmoniques au piano. La rhapsodie mexicaine de Manuel Ponce, interprétée par Arturo Díez Nieto Dorantes. Le 13 décembre 1913, Manuel Ponce donne une conférence sur la musique populaire et la chanson mexicaine dans une très grande librairie de Mexico. Un véritable événement. J'ai parlé de folklore, a-t-il raconté, des chansons méprisées que j'ai recueillies des lèvres de chanteuses populaires que j'entendais dans mon enfance. Comme je défendais les gens modestes et que l'heure était à la révolution, on m'a même appelé le sapatiste. À partir du centenaire de notre indépendance en 1910, la chanson mexicaine a pu rentrer dans les salons d'une société qui n'admettait jusque-là que de la musique étrangère. Dans le fracas des luttes sanglantes, sont nées les chansons que les soldats ont chantées d'un bout à l'autre du pays. La Adelita, la Valentina, la Cucaracha. À la fin de sa conférence, Ponce a affirmé que comme Grieg, Brahms, Dvorak, Glinka l'ont fait en Europe, il était temps de rendre leur dignité au chant populaire et de donner toute sa place à un art vraiment mexicain. Parmi les chants qu'il a arrangés pour le concert, il y a « A la orilla de un palmar », au bord de la palmeraie, que le ténor italien Tito Skipa a rendu célèbre dans le monde entier.
« A la orilla de un palmar, yo vide una joven bella, su boquita de coral, su poquito, su estrella. Al pasar le pregunté, que quién estaba con ella, y me respondió llorando, sola vive en el palmar. A la orilla de un palmar, yo vi de una joven bella, su boquita de coral, su poquito, su estrella. Al pasar le pregunté que quién estaba con ella, y me respondió llorando, sola vive en el palmar. Soy huérfanita, no tengo padre ni madre, ni un amigo que me venga a consolar. Solita paso la vida a la orilla del palmar, y solita voy y vengo como la
Un enregistrement de 1926, Tito Skipa a aimé l'Amérique latine avec passion. En 1916, la révolution semble dans une impasse. Zapata et Villa étaient entrés avec leurs troupes dans la capitale 2 ans auparavant, et depuis, le combat des chefs n'a jamais cessé. Le président Carranza veut y mettre fin en rétablissant la légalité constitutionnelle qui a instauré en 1917 le suffrage universel et des lois sociales importantes. Dans sa lutte contre Pancho Villa et Zapata, il peut compter sur son ministre Obregón et sur l'organisation ouvrière sociale ou anarchiste des bataillons rouges de la Maison de l'ouvrier mondial. Entre-temps, hélas, face au chaos dans le pays, beaucoup d'habitants de la capitale ont fui, notamment de nombreux artistes et intellectuels. Le peintre Orozco et le compositeur Carrillo se sont réfugiés à New York. Diego Rivera, boursier du gouvernement depuis 1910, coule, lui, de beaux jours en Espagne et en France. Quant à Manuel Ponce, il a dû quitter le Mexique en 1915 et s'est exilé à Cuba. Peu avant son départ, il a composé une ballade mexicaine pour piano et orchestre où il cite à nouveau une chanson populaire, une œuvre lyrique et très nostalgique. C'est sur cette ballade mexicaine de Manuel Ponce avec Eva Souk au piano et l'Orchestre symphonique de Mexico dirigé par Enrique Batis que nous nous quittons aujourd'hui. Rendez-vous donc dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission réalisée par Béatrice Trichet, prise de son Pierre Monteil, une émission disponible bien sûr en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.